Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Si vous venez pour la première fois, soyez les bienvenus tout court, même si vous ne venez pas pour la première fois. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous invite à préparer vos Bibles. Nous lirons dans l'évangile de Luc. Luc est au chapitre 19, ça sera notre première lecture bien sûr. Mais avant, j'aimerais simplement vous introduire ces moments en vous expliquant comment je suis venu à méditer sur ces choses. Je me suis posé la question, un petit peu, qu'est-ce qu'il faudrait à quelqu'un qui découvrirait l'Évangile, qui découvrirait la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il pourrait entendre, qu'est-ce qu'il aurait besoin d'entendre, de quoi a-t-on besoin dans notre vie? Et je me suis souvenu d'une petite anecdote que j'ai appris il y a un moment. Un jour, il y avait deux marins, qui, après avoir fait une grande traversée sur un bateau, avaient bien envie de se détendre un peu. Et le bateau s'est approché du bord, du port. Et comme c'était un gros bateau, il ne pouvait pas trop s'approcher. Il s'est approché d'une île. Il est resté à distance et les marins ont pris une chaloupe et ils se sont mis à la mer. Ils ont commencé à naviguer jusque le bord. Ils ont passé une soirée à découvrir l'île, découvrir des milieux pas très fréquentables. Ils ont commencé à jouir un peu de tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont commencé à boire tout ce qu'ils pouvaient aussi. Et ils sont venus en fin de soirée, alors que la nuit était tombée, qu'il faisait très nuit, qu'il était sombre et qu'il était très tard. Après avoir beaucoup bu, ils se sont dit « bon, mais on va rentrer ». Ils ont commencé à marcher jusqu'au port, comme ils pouvaient. Ils ont commencé à rentrer dans la chaloupe, comme ils le pouvaient aussi. Et ils ont commencé à ramer, à ramer, à ramer. Et ils voulaient absolument rentrer sur le bateau, ils avaient ce but de rentrer sur le bateau, ce désir, mais ils étaient exténués à cause de ce qu'ils avaient fait cette soirée-là. Je l'ai déjà partagé cette anecdote, mais je le refais ce soir pour introduire, et ils se mettent à ramer de toute leur force. Ils avaient bu, ils ne savaient pas trop, ils n'arrivaient pas à discerner un peu ce qui se passait autour, mais ils voyaient bien que le bateau n'avançait pas, en tout cas, qu'ils ne s'approchaient pas, eux, du bateau. Et ils ramaient encore plus fort, ils dépensaient toute leur énergie, puis au bout d'un moment, tellement ils étaient fatigués, ils se sont écroulés dans la barque, et ils se sont endormis. Et puis le lendemain, ils se sont réveillés, et ils ont remarqué qu'ils n'avaient pas bougé d'un centimètre. Ils étaient encore au port. Tout ça parce qu'ils avaient oublié de détacher la corde du port. Vous savez, il y a ces sortes de grosses pièces en fer qui maintiennent les bateaux au port auxquels on attache la corde. Et ces marins avaient épuisé toute leur force pour essayer d'atteindre le bateau, mais ils avaient oublié de détacher la corde. Et combien de fois on est comme ça, on veut découvrir le bonheur, on veut rentrer dans un lieu où on peut se reposer, après avoir réalisé que notre vie et tous nos efforts pour nous amuser, pour nous distraire étaient vains et même nous ont fait empirer de vie. On veut rentrer et on n'y arrive pas. On veut trouver un havre de paix, on veut se reposer, on n'y arrive plus. Tout ça parce qu'on a oublié de détacher certains liens. Et j'ai parlé de plusieurs liens, j'ai pensé à plusieurs liens. Il y a peut-être les liens de la dépendance, liens de la drogue. Certains sont liés par 12 cm, 10 cm de quelque chose, une cigarette. Ils n'arrivent pas à s'en défaire et ça leur pourrit la vie, comme on dit. Ils tombent malades, certains meurent à cause des suites de cette dépendance. Toutes sortes de drogues. J'ai eu l'opportunité dans ma vie de rencontrer des jeunes hommes, des jeunes filles, surtout au lycée, qui fumaient du shit, comme on dit, en tant que jeunes, qui avaient toutes sortes de choses, de passe-temps comme ça, de business comme ça aussi. J'ai pu voir de grosses quantités de drogues, et tous ceux qui étaient là, alors qu'ils faisaient belle tête, soi-disant pour s'amuser, tous au fond, avaient une tristesse dans leur cœur. Les liens de la dépendance, les liens de la drogue, les liens de la peur aussi. J'ai connu une jeune fille qui avait archi peur, très très peur, tout le temps peur. Elle avait des gris-gris, toujours, elle allait voir des voyantes, des personnes comme ça, des guérisseurs, parce qu'elle avait toujours peur. Et elle demandait qu'est-ce qu'elle pouvait prendre comme petite fiole, comme petite potion magique, on va dire, un petit peu, comme porte-bonheur, pour qu'il ne lui arrive rien. Elle avait toujours peur, tout le temps. Mais plus elle plongeait son argent et son temps là-dedans, plus elle avait peur, plus elle était prise d'angoisse et plus elle se retrouvait liée. Une autre peut-être dépendance, un autre lien, la dette. Quelques personnes se voient liées parce qu'ils ont dépensé leur argent. Ils se sont engagés dans des crédits, dans des choses comme ça. Ils sont liés, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas avancer. Et là encore, il faudrait que le lien soit coupé, qu'ils arrivent à s'en sortir. Et des gens, à force de jouer à des jeux d'argent, se sont retrouvés endettés. Ils font des promesses, ils ne tiennent pas, ils empruntent, etc. Et ils croient qu'en jouant, ils vont gagner, ils vont s'en sortir. Un jour, ça va payer. Et puis, ils vont de mal en pire. Et puis, la maison est perdue. Et puis, le foyer est détruit à cause de tout cela. Il y a des liens un peu comme ça. Et je ne veux pas m'attarder plus. Je parlerai d'un lien. Le lien qui a besoin d'être coupé. Le lien de la culpabilité. Quand quelqu'un se sent coupable, il a une culpabilité, il a besoin, soif de pardon. Et là, il ne peut rien faire d'autre. Il ne peut pas trouver la paix tant qu'il ne se sait pas pardonner, tant qu'il ne sait pas que sa dette est payée. Tant qu'il ne sait pas que l'affaire de sa faute, de son erreur, est payée, est absoute. Le lien de la culpabilité. Et je me dis, si quelqu'un venait pour la première fois, je me suis dit ça. Je me suis rappelé de la première fois où je suis revenu dans une église, après avoir grandi dans l'église. Aux alentours de 20 ans, je me suis dit, en y allant, je m'attendais à tout, mais j'avais oublié une chose. C'est que là, dans une église, on prêche la délivrance de la culpabilité, le pardon des péchés. Et je me suis dit, c'est de ça de façon qu'on a toujours besoin. Je cherchais autre chose, je me suis dit, de façon, il faut revenir toujours à la même chose. Jésus sauve, Dieu pardonne les péchés. Pour que des gens, quelqu'un de nouveau qui entrerait ce soir, puisse entendre qu'il a l'opportunité de partir pardonner, délivré de toute sa culpabilité, car quelqu'un a payé sa dette. Et je me suis posé une question, j'ai résumé tout cela dans une question. Quel péché Dieu ne peut pas pardonner? Quels sont les péchés que Dieu ne peut pas pardonner? Je me suis posé cette question, et j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que Dieu peut pardonner la cupidité, l'amour de l'argent, l'avarice, l'égoïsme? Qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui connaissent Dieu, est-ce qu'ils peuvent répondre? Est-ce que Dieu peut pardonner de l'avarice, de la cupidité? Oui, il y en a un qui n'a pas cru, c'est Judas, il s'est suicidé. Et pourtant, Dieu l'avait déjà fait. Dans Luc 19, donc on va lire, Luc chapitre 19, verset 1. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Et ça paraît peut-être pas évident au premier abord, mais chef des publicains, ça veut dire que c'est le responsable de ceux qui récoltaient de l'argent pour l'ennemi. Il y avait tout un contexte à ce texte. Il y avait à Jérusalem et dans tout le pays des personnes qui travaillaient pour les Romains. À l'époque, les Romains avaient assiégé l'endroit et dominé. Et ils récoltaient un tribut, un impôt. Et puis les publicains, c'était des Juifs qui travaillaient pour les Romains, l'ennemi, et qui demandaient aux Juifs qui passaient par certains chemins l'impôt. Ils disaient, voilà, donne-moi l'impôt pour les Romains. Et il avait le droit, s'il était publicain, c'est-à-dire s'il était employé, il avait droit de demander tout ce qu'il voulait en plus de l'impôt pour lui. C'est ça un publicain. C'est quelqu'un qui a acheté ce travail, il fallait payer pour rentrer dans ce travail. Et quand il avait acheté ce droit d'être publicain, il réclamait plus que ce qu'on demandait. Et il le gardait pour lui. En clair, c'était un traître, un voleur. Et Jésus va, vu que cet homme cherche à le rencontrer, va aller manger chez lui, va commencer à parler, sûrement qu'il y a eu un discours, et puis Zachée va se tourner vers Jésus et va dire, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Lui qui était égoïste, qui prenait tout pour lui, avare, il commence à donner aux pauvres. D'un coup, les pauvres existent. Est-ce que vous vous inquiétez des pauvres? C'est important ça. Encore plus nous qui sommes chrétiens. Est-ce qu'on s'occupe des pauvres? Et puis, il continue, il va dire, si j'ai fait tort à quelqu'un, bien sûr qu'il a fait tort à quelqu'un. C'est-à-dire si quelqu'un vient me voir et me dit, me rappelle que je lui ai fait tort, que je l'ai volé, je lui rendrai le quadruple. Et c'était exactement ce que la loi de Dieu demandait. Rendre au quadruple. Et Jésus va dire que le salut est entré dans cette maison. Cet homme est pardonné, sauvé. Le mensonge, est-ce que Dieu pardonne le mensonge? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend, oui. Dieu pardonne le mensonge, bien sûr. Dans Marc, chapitre 14, verset 71. Prenez avec moi. Marc 14, 71. Pierre voit Jésus qui est arrêté, Jésus son maître, lui qui est le disciple de Jésus depuis plus de 3 ans. Et il dit alors, il commença à faire des imprécations et à jurer. Quelqu'un le reconnaît, Jésus est arrêté pour être emmené, crucifié, et lui il suit Jésus de loin, il guette, il ziote, et quelqu'un le reconnaît pour ayant été avec Jésus. Et lui, par peur d'être emmené, tué aussi, il dit, il nous est dit qu'il fait des imprécations et qu'il jure, qu'est-ce qu'il dit ? Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Pierre est un disciple de Jésus. Il connaît très très bien Jésus. S'il y en a un qui le connaît, c'est lui. Juste avant, il vient de dire, je ne te renierai jamais. Il vient de couper l'oreille à un soldat qui vient chercher Jésus. Et juste après, il se voit accusé. Il jure, je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Des imprécations, c'est-à-dire il souhaite le mal de Jésus. Qu'il soit maudit, c'est bien fait pour lui, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il souhaite le mal de Jésus et il se met à jurer. Je ne connais point cet homme. Il ment. Et prenez avec moi Jean, chapitre 21, verset 17. Jésus parle et il dit, Simon, fils de Jonas. Simon, c'est le prénom de Pierre aussi. C'est la même personne. Fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. On pourrait dire, si on était Jésus, on aurait dit, bah, écoute, c'est bien fait pour toi. Maintenant, puisque tu m'as renié, je te bannis à tout jamais de ma relation d'amitié. Tu ne fais plus partie de mes amis, tu ne fais plus partie de ceux que je connais, je ne veux plus jamais te voir. Avez-vous été trahi par des amis? Moi, j'ai été trahi, et je peux dire même aussi que j'ai trahi. Depuis ma naissance, il y a des personnes, des amis que j'ai souvent peut-être trahi. Je m'applique à ne plus le faire, rassurez-vous. Mais est-ce que des fois on n'est pas trahi? Comment on réagit? On peut dire, ouais, ben, puisque c'est comme ça, lui, je lui fais plus confiance, lui, je le raye, elle, je le raye, etc. Jésus l'accepte et lui dit même, sois pasteur. Puisque paie mes agneaux, paie mes brebis, c'est-à-dire, sois berger. Et berger, c'est le même mot que pasteur. Sois pasteur. S'il lui dit d'être pasteur, c'est qu'il lui a pardonné. Et on voit l'assurance de Pierre qui dit, un jour lorsqu'il prêche, plus tard, il dit, vous avez renié le Christ. Mais, il a de l'aplomb celui-là. Hein? Vous avez renié le Christ, etc. C'est ce qu'il avait fait, mais lui se savait pardonner. Est-ce que Dieu pardonne l'adultère? Aujourd'hui, ça fait rire, c'est presque un challenge, passer de fille en fille. Mais c'est vrai. Hein? Au collège, au lycée, même au travail, on parle que de sexe. Que de ça. Et puis c'est un challenge, avec qui t'as couché hier soir? Ce week-end, qu'est-ce que tu as fait? L'adultère. Est-ce que Dieu peut pardonner l'adultère? Quelqu'un qui culpabilise parce qu'il a trompé. Je vous fais la lecture dans Jean chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme, c'est-à-dire la tuer à coups de caillou. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « je ne te condamne pas non plus. Va et ne pâche plus. Amen. Jésus l'a-t-il relâché, relaissé partir sans la condamner? L'a-t-il pardonné? Bien sûr. Elle est repartie. Elle n'a pas été condamnée. Et je crois qu'elle a dû se dire que j'ai échappé belle. Heureusement que Jésus était là. Heureusement. Est-ce que Jésus, Dieu pardonne le meurtre? Je ne vais pas en faire beaucoup d'autres, vous inquiétez pas. Est-ce que Jésus pardonne le meurtre? Si on tuerait, ça c'est trop grave pour être pardonné. Non? Qu'est-ce que ça pense, Miguel? Est-ce que le meurtre peut être pardonné? Vous feriez quoi, vous, si quelqu'un tuait quelqu'un d'autre? Vous seriez le juge. Dent pour dent, œil pour œil, c'est pas vrai? Il veut t'a tué, tu mérites la mort. C'est facile. Bon, une personne, encore ça va. Mais quand t'as tué 10 personnes, écoute, c'est fini. Hein, là, on t'enferme et on te tue, peine de mort. C'est pas vrai? Ou alors, je vais te condamner. Tu vas voir, on va te passer à tabac. J'ai été dans les prisons, prêcher, et les prisonniers, quand ils savaient qu'il y avait un violeur, quand ils savaient qu'il y avait un meurtrier qui était là, quelqu'un qui s'était attaqué à un enfant, par exemple, ils s'arrangeaient, ils se mettaient d'accord avec les surveillants, les portes étaient fermées, et la personne est passée un sale quart d'heure, comme on dit chez nous. Parce qu'on ne peut pas supporter la violence comme ça auprès d'enfants, le meurtre, toutes ces choses-là. Mais est-ce que Jésus, est-ce que Dieu, lui, le Saint, qui n'a jamais péché, il est prêt à pardonner quelqu'un qui aurait tué? Peut-être quelqu'un entendrait un message comme ça, où on poserait la question, lui, il aurait tué, il n'ose pas aller dans une église, mais il entendrait ce message, oh, est-ce que moi, je peux être pardonné par Jésus? Est-ce que Dieu peut me pardonner parce que j'ai tué? Eh bien, on va le voir. Dans Luc, chapitre 23, au verset 39, le contexte, c'est la croix. Jésus est en train d'être crucifié et deux personnes sont crucifiées, un à sa droite, un à sa gauche. Les deux l'insultent, c'est deux meurtriers, deux personnes qui ont tué, qui ont organisé le meurtre de quelqu'un. Verset 39, il nous est dit que l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. On peut dire Amen. Merci Seigneur. Parce que même quelqu'un qui aurait commis un meurtre, qui serait un meurtrier, qui aurait fait des crimes, Dieu peut le pardonner. Même ça, c'est pas trop gros, trop grave pour pouvoir être pardonné, pour ne pouvoir être pardonné. Et est-ce que quelqu'un qui aurait commis adultère et commis un meurtre, les deux pourraient être pardonnés? Est-ce que c'est pas trop grave ça quand même? Les deux. Monsieur Delabre, qu'est-ce que vous en pensez? Deux, c'est trop, non? Quelqu'un qui aurait fait un meurtre, adultère, tout ça prouvé, qu'est-ce que vous en pensez? On va le lire. Allez, dernière lecture, en tout cas, qu'on fait ensemble, dans 2 Samuel. Qui peut me dire quel est l'auteur de cet adultère et de ce meurtre? David. 2 Samuel, chapitre 11, verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Imaginez-vous la situation. Tous les rois sont à la guerre, lui, il décide de rester chez lui, se reposer, et bien sûr, comme l'oisiveté est mère de tous les vices, hein, il se met à regarder du haut de son toit un soir, par-dessus le balcon, et il voit une femme en train de se baigner. Il la trouve très jolie. Il la fait venir, il demande qui c'est. C'est la femme de quelqu'un. Il la fait venir, il couche avec elle. Elle est enceinte. Verset 15. David écrivit dans cette lettre, placez Uri, donc le mari de cette femme, au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. David, meurtrier, organise le meurtre du mari de celle avec qui il avait couché pour cacher son péché. Il a commis adultère, la femme devient enceinte. J'ai sauté quelques passages où il nous est dit que David fait revenir Uri du combat pour qu'il puisse aller avec sa femme et qu'on croit que c'est le fils de son mari. Manque de bol, le gars est sérieux, il dit mais les autres sont au combat, moi j'irai profiter de mon épouse et de mon foyer. Pas moyen. Alors il dort dehors. David va aller encore plus loin, il va dire on va faire une soirée, il réinvite Uri et il dit viens, réjouis-toi, il le saoule. Il le fait boire et il croit qu'une fois ivre, il va aller vers sa femme. L'homme, sérieux jusqu'au bout, il dit « Non, je n'irai pas vers elle. » Et il couche devant la porte du roi. Voyant ça, David il dit « Il n'y a plus d'autre moyen, je fais tuer cet homme. » Il fait tuer Uri, on l'a vu au verset 15. Prenez le chapitre 12, le tout premier verset. « L'Éternel envoya Nathan vers David. » Et verset 13. « David dit à Nathan, après que Nathan lui ait parlé, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Même quelqu'un qui aurait commis adultère et meurtre, il peut être pardonné de Dieu. Je vais résumer un peu tout ça. Il n'y a aucun péché, qu'il soit trop grand, trop grave, trop gros, pour que Dieu ne soit pas capable ou n'ait pas envie de le pardonner. Qu'importe le péché, qu'importe la souillure d'un homme, qu'importe l'histoire d'un homme, qu'importe les déboires d'un homme ou d'une femme, Dieu peut et pourra, jusqu'à son retour, pardonner celui qui s'approche de lui. Aucun péché ne peut pas être pardonné, à moins que on fasse Dieu menteur et qu'on n'accepte pas sa parole. Je vous lis quelque chose. 1 Jean, chapitre 1. Il est dit ceci, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est point en nous. Une des conditions pour être pardonné, c'est de confesser ses péchés. C'est la condition. Confesser ses péchés à Dieu, avouer ses fautes à Dieu. Et si quelqu'un ce soir disait, mais j'ai pas péché, eh bien il s'en met à faire Dieu menteur, et il ne peut pas être pardonné. Si quelqu'un disait, mais non, j'ai rien fait moi, j'ai rien fait, et qui cherchera à cacher son péché, il ne peut pas être pardonné. Si quelqu'un dit, mais c'est pas grave ce que j'ai fait, attends, c'est un péché mignon, vous avez déjà entendu ça? Un péché mignon, mais depuis quand le péché c'est mignon quoi? Le péché, ça tue l'âme. Le péché, c'est grave. Mais il peut être pardonné à condition qu'on le reconnaisse. Si quelqu'un dit, oui, j'ai péché, j'ai fait telle chose, mais c'est pas grave. Ou alors, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, tu sais, j'ai été élevé comme ça, c'est l'éducation, c'est comme ça, c'est pas ma faute. Ou c'est mon caractère. Mais Dieu peut changer ton caractère. Si quelqu'un dit, mais j'avais raison, de toute façon j'avais des excuses pour faire ça. C'est pareil. Tu ne pourras pas être pardonné, puisque tu ne reconnais pas ton péché. Ce que Dieu demande, c'est qu'on prenne nos responsabilités. Qu'on soit des hommes, qu'on soit des femmes, des personnes honnêtes devant Dieu, qui disent, oui, j'ai péché, et je pourrais sortir toutes les excuses, je sais que ça ne servira à rien, j'ai péché contre toi. Qu'est-ce qu'il a dit, Zachée? On voit qu'il a confessé son péché, on voit qu'il s'est repenti. Il dit, je donne aux pauvres, je rends ce que j'ai volé. Il était peut-être avare, il se met à s'inquiéter des pauvres. Il était peut-être cupide, il dit, je rends ce que j'ai volé. Au quadruple. Quand on voit Pierre, comment on voit qu'il s'est repenti? Il s'est mis à réfléchir sur ce qu'il venait de faire, sur la parole qu'il avait dite à Jésus, et il se met à pleurer. Il nous est dit qu'il s'est mis à pleurer. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Eh bien, elle ne s'est pas justifiée. Elle n'a pas démenti, elle n'a pas cherché à cacher sa faute. On l'a pris en flagrant délit, vous me direz. Mais elle n'a pas cherché à dire, oui, mais c'est pas ma faute, tu sais, il m'a cherché, ou alors il m'a prise, il m'a forcé. Non, non, elle n'a rien dit. Et quelquefois, le silence parle mieux que beaucoup de paroles. Faire silence devant Dieu. S'humilier dans le cœur. Qu'est-ce qu'il a dit, ce bandit? Il a reconnu son péché, il a dit, pour nous, c'est juste, c'est ce que méritent nos meurtres, nos crimes. Et qu'est-ce qu'il a dit, David? Il a dit, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. La seule chose à faire, c'est de confesser ses péchés. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de faire des efforts? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de faire des sacrifices? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de payer quelque chose pour que Dieu nous pardonne? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de faire brûler un cierge quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de formuler une prière spéciale avec des mots spéciaux, une formule? Pas besoin. Pourquoi pas besoin? Parce que quelqu'un a payé tout ce qu'il fallait payer. Quelqu'un a subi tout ce qu'il fallait subir pour qu'on soit expié, pour qu'on soit pardonné, pour que nos péchés soient effacés. Cette personne, vous le connaissez, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est donné sur le bois de la croix, volontairement, pour qu'on n'ait pas besoin de payer les conséquences de notre péché, qu'on puisse être pardonné. La seule chose à faire, c'est de se présenter devant Dieu et de dire, j'ai Jésus comme avocat, je crois en Jésus qui est mort pour moi à la croix, j'accepte son sacrifice, Jésus s'est donné pour moi, son sang a coulé pour laver tous mes péchés. La liste des choses que j'avais faites a été clouée sur le bois de la croix, avec Jésus. Jésus a porté mes péchés. On n'a besoin que d'une personne, c'est du Seigneur Jésus. Face à Dieu, lorsqu'on mourra, qu'on sera présenté devant Dieu, aucun mot, aucune formule, aucun cierge, aucun argent ne pourra acheter notre pardon. La seule chose qu'on aura pu faire sur la terre pour se préparer, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. C'est d'accepter le Fils. Et si tu as le Fils, tu as la vie. Si tu as le Fils, tu as le pardon. Si tu as Jésus, le Fils de Dieu, tu as tous tes péchés qui te sont pardonnés et effacés. Même les plus gros à tes yeux, même les plus petits qui ont autant besoin d'être pardonnés, ils seront effacés. Et ils ne te seront pas redemandés. J'aimerais qu'on ferme nos yeux et je vais raconter une autre anecdote. Une histoire vraie. Un jour, un homme avec son fils avait vraiment cette passion pour les arts. Et il se mettait à aller de lieu en lieu pour acheter des peintures. Il allait de lieu en lieu, il achetait des peintures de toutes sortes de grands peintres, des tableaux qui valaient une fortune, et il payait un homme riche avec son fils. Ils étaient là passionnés, ils ont fait toute une collection qui valait plusieurs centaines de millions de dollars, je crois. C'était une fortune qui était là rassemblée, tout ça pour une passion. Et un jour, le fils a été appelé à la guerre. Le fils est parti à la guerre et ce fils est mort sur le champ de bataille. Le père a une tristesse incroyable. Il a une tristesse incroyable au point qu'il s'est mis à souffrir dans son cœur. Il est tombé malade à cause de ça. En quelques mois. Et puis un jour, quelqu'un a frappé à sa porte. Il a ouvert et c'était un des amis de son fils qui était sur le champ de bataille. Un ami de son fils qui lui a dit, voilà, j'ai promis à votre fils que je viendrai vous voir et que je lui apporterai ça. C'est un portrait que j'ai fait de lui avant qu'il meure. Je vous apporte ce petit portrait. Et ce père a commencé, dans les mois qui lui restaient, à faire plusieurs expositions de ses œuvres. Et la première œuvre qu'il présentait à chaque fois, c'était le petit portrait de son fils, qui n'avait, financièrement parlant, aucune valeur, mais qui, à ses yeux, était la chose la plus importante. Le tableau, le portrait de son fils. Et cet homme très très riche est mort à son tour. Il est mort. Et après sa mort, il y avait la vente de tous ses biens aux enchères. Les enchères ont commencé, et puis la première des œuvres qui a été présentée, alors que la foule qui était venue pour acheter les belles œuvres s'attendait à voir des tableaux de toutes sortes de célébrités, la première œuvre qui a été mise en vente, ça a été le petit tableau de son fils. Les gens commençaient à se moquer, les gens commençaient à se rebeller, à dire « Mais c'est quoi ça? On veut pas ça, on veut les peintures de cette personne célèbre, on veut cette peinture-là, on veut pas ce tableau-là, passez-le !» Et puis la personne qui dirigeait les enchères disait « Je ne peux pas faire autrement, il faut que je commence par ce tableau, c'est la volonté du défunt. » Et puis les gens disaient, mais non, on ne veut pas ça, on veut les tableaux des maîtres, on veut les tableaux des célèbres. Et puis au bout d'un moment, un homme a dit, un homme très très pauvre a dit, moi je veux bien, j'en donne 10 dollars. La personne, le responsable des enchères, a commencé à dire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut acheter ce tableau? 10 dollars une fois, 10 dollars deux fois, y a-t-il personne d'autre? Personne ne voulait de ce tableau. 10 dollars trois fois, adjugé vendu, le tableau était vendu. Et puis le maître de la séance commence à dire, voilà, la vente aux enchères est terminée. Tout le monde a été ébahi, tout le monde a été impressionné, a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et dit, voilà la volonté du défunt. Celui qui achèterait le tableau de son fils hériterait de tout le reste avec. Et cet homme qui était pauvre, mais qui a osé investir dans le tableau du fils, est reparti avec une richesse incommensurable, quelque chose d'incroyable. Tout ça parce qu'il avait acheté le fils. Le fils avait eu un peu de valeur à ses yeux. Le fils avait peut-être toute la valeur qu'il pouvait donner, il n'avait rien d'autre. Il était pauvre lui, mais il a osé acheter le fils. Et c'est comme cela qu'il a eu part à tout le reste de l'héritage. Et le Seigneur, notre Dieu, le Père, a souhaité pour sauver les hommes une seule et unique chose, qu'on accepte son Fils, qu'on demande pardon à Jésus parce qu'il a dû payer pour nos péchés. Rien d'autre n'a de valeur. Il a donné Dieu ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, sur le bois de la croix, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, n'aille pas en enfer, mais qu'il aille au ciel, qu'il ait la vie éternelle en son nom. Et ce que Dieu voudrait vraiment qu'on se souvienne dans notre cœur ce soir, c'est que tous les péchés peuvent être pardonnés. Mais la condition, c'est d'accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, parce qu'il n'y a que lui qui s'est donné pour expier nos péchés. Que lui qui était pur et qui s'est donné pour des pécheurs, pour des souillés comme nous. Que lui qui pouvait remonter au ciel sans avoir à craindre l'enfer et qui pourtant s'est donné pour qu'on échappe à l'enfer. Nous qui le méritons bien justement. Et la seule chose que Dieu demande, c'est qu'on reconnaisse notre péché, comme ce malfaiteur qui sur la croix pouvait dire, mais pour lui, il n'a rien fait, tandis que pour nous c'est juste, c'est ce qu'ont mérité nos crimes. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, par Jésus-Christ son Fils. Alors retenons cette chose très très importante. Peu importe les efforts qu'on fera dans notre vie pour compenser nos erreurs, peu importe l'argent qu'on peut donner à une église ou à une œuvre caritative ou à un pauvre. Bien sûr, il faut prendre soin des pauvres, mais ça ne rachètera pas toutes nos erreurs. Tout ce qu'il peut racheter nos erreurs, tout ce qu'il peut nous faire échapper l'enfer, c'est le sang de Jésus qui a coulé sur le bois de la croix. Ce sang si précieux que rien ne pourrait acheter, même pas tout l'or et tout l'argent du monde. Oui, si quelqu'un reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur, si quelqu'un croit que Jésus a donné sa vie pour lui, si quelqu'un croit que tous ses péchés peuvent être expiés, même les pires, même les plus petits, à cause de Jésus qui les a portés sur le bois de la croix, eh bien, qu'il dise à Jésus, pardon pour mes péchés, rentre dans mon cœur, je te veux à toi, et il aura tout le reste, la vie éternelle, le ciel pour l'éternité, le paradis, la fête pour l'éternité, la joie, la paix, plus aucune souffrance, plus aucune douleur. Et dès aujourd'hui, il sera délivré de sa culpabilité. Amen. Amen. Merci Seigneur encore pour tout ce que tu as fait. Merci Jésus de t'être donné pour nous. Merci parce qu'il n'y a pas un seul péché que tu ne puisses pas pardonner, sauf le fait de ne pas vouloir du pardon et de ne pas vouloir reconnaître son péché. Oui Seigneur, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de refuser la conviction du Saint-Esprit, conviction de péché. On sait très bien qu'on est pécheur. On n'a pas besoin de beaucoup d'heures pour comprendre qu'on est fautif devant toi, qu'on est taché, qu'on est souillé par le péché. Et on ne veut pas résister à ta parole, on ne veut pas résister au Saint-Esprit. On veut confesser nos péchés. C'est ce que j'ai fait et je suis heureux de l'avoir fait. C'est ce que je ferai toute ma vie s'il y a besoin, car encore je suis faible. Mais par toi, je suis sauvé, Jésus. Et aujourd'hui, mon désir, le désir de la plupart, c'est que tu deviennes et que tu sois pour toujours le roi dans notre vie, le Seigneur. Oui, la religion ne nous sert à rien. Nous voulons vraiment rentrer dans une relation avec toi. Aide-nous, Seigneur, pardonne-nous encore le temps qu'on passe loin de toi, les choses qu'on l'on fait sans ton avis, ou même que l'on sait qui te déplaisent. Aide-nous à vivre selon ta parole, selon ta volonté, pour te plaire et pour pouvoir être avec plein d'assurance le jour où tu paraîtras pour nous enlever, pour nous prendre avec toi, ou le jour où nous mourrons et nous paraîtrons devant toi aussi pour rendre compte pour notre vie. Que ton nom soit béni, mon Dieu, parce parce que tu as tout fait, tout est accompli, il nous suffit de rentrer dans tes projets, dans ce chemin de vie qui s'appelle Jésus et sa parole. Amen. Merci Seigneur. Amen.